Donc je vais vous proposer un petit contrepoint théologique, n'est-ce pas? Les participants habituels au séminaire le savent. Un des professeurs chargés du séminaire se risque toujours, après l'intervention du conférencier, à avancer un point de théologie chrétienne susceptible de consonner avec l'interlocuteur, dont il ne sait pas par avance ce qu'il va dire. Nous avons déjà évoqué, je vous fais un petit retour en arrière, l'articulation personnaliste de l'individu et de la société quand nous parlions d'Europe sociale. Nous avons parlé de la grâce du Christ déployant la liberté humaine au sujet de l'identité de l'Europe. Nous avons déployé la grande fresque socioliturgique de l'Apocalypse en arrière-fond de la lutte contre le terrorisme. Nous avons parlé du soutien ecclésial aux familles à propos de la situation démographique en Europe. Puis, on a aussi essayé d'évoquer la dernière fois la relativisation nécessaire de l'économique pour que l'Europe se défende d'abord politiquement quand il a été question de sa vocation géopolitique. Le sujet de ce soir présente un cas prototypique sur la question de savoir comment l'Europe vit la question de l'autre, jusqu'ici longtemps représentée par les Juifs, et on sait ce qu'il en est advenu. Maintenant que l'origine juive ne fait plus problème aux Européens, en tout cas officiellement, la peur de l'islam, endormie depuis des siècles, fait retour en raison de l'immigration importante de musulmans, maghrébins, turcs et maintenant africains dans l'Union. On sait que les musulmans sont nombreux et en croissance démographique. On sait qu'ils ont vécu longtemps sous séquestre économique, de sorte que leur ascension sociale a été rendue très lente et que leur habitat a dû demeurer groupé. On croit que leur religion tient lieu de conscience collective, vu notamment qu'il est interdit aux femmes d'épouser des non-musulmans et à tous de se convertir. On s'en va répétant que partout où l'islam est passé, le christianisme a été éradiqué, ou bien que nous sommes déjà colonisés de l'intérieur. Voilà. Nous sommes ici dans un dialogue de théologie à théologie, un dialogue interreligieux donc, qui ne correspond pas au dialogue écuménique. Un dialogue écuménique cherche l'unité dans la diversité, et non plus au dialogue intra-ecclésial qui tâche de gérer les diversités internes à l'Église. Nous sommes dans un dialogue interreligieux fondé donc sur l'adoration de Dieu qui s'est révélé unique et saint, mais qui ne nous dispense pas de chercher encore la vérité, une vérité qui n'est ni exclusive ni inclusive, mais relationnelle, c'est-à-dire relative à toutes les autres. La révélation est certes à nos yeux, catholiques, définitive et indépassable en tant qu'avènement de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Mais en tant que contenu de vérité, elle est nécessairement historique et limitée. D'autres expériences religieuses peuvent être, et c'est l'enseignement du Concile Vatican II dont je vous ai donné les traces, et puis des papes ultérieurs, la révélation, donc, même si elle est indépensable et définitive, comme expérience historique, eh bien, d'autres expériences peuvent posséder des rayons de cette vérité, c'est le vocabulaire du Concile, qui témoignent à leur manière du même mystère insondable de Dieu. Ce n'est qu'au dernier jour que se manifestera la mystérieuse convergence des religions entre elles et dans l'unique dessein de Dieu, pour rappeler sans doute ici de la fin du testament de Christian de Chergé. J'espère que vous le connaissez, je vous cite la dernière phrase. « Dans ma mort sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité, voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminé de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. » Fin de citation. Jean-Paul II, je vous le répète, a déclaré aux jeunes musulmans réunis à Casablanca en 1985 « Nous croyons au même Dieu ». Benoît XVI, après la controverse de Ratisbonne dont nous avons eu l'occasion de parler en 2006, puis son voyage ultérieur en Turquie et sa visite à la grande mosquée d'Istanbul, mosquée bleue, où il s'était longuement recueilli, chaussé de bas bouche blanche, tourné vers la Mecque, les mains croisées, les yeux fermés, Eh bien, le pape Benoît XVI commentait ainsi son geste, qui a été diversement apprécié. Voici. « En m'arrêtant quelques minutes pour me recueillir en ce lieu de prière, je me suis adressé à l'unique Seigneur du ciel et de la terre, Père miséricordieux de l'humanité tout entière. Puissent tous les croyants se reconnaître comme ses créatures et rendre le témoignage d'une véritable fraternité. » Fin de citation. La réaction de 38 dignitaires musulmans, puis 138, qui a suivi ce voyage, s'est fondée, à notre grand étonnement catholique, un peu sur les écritures musulmanes, beaucoup sur les références juives et surtout chrétiennes à l'écriture, donc le fameux « tu aimeras ». Les deux commandements de l'amour, disaient les dignitaires musulmans, c'est cela qui nous unit. C'est la réponse d'un monothéisme à l'autre. Car l'islam est né contre le polythéisme ambiant, ou le judaïsme dégénéré, ou les courants chrétiens hérétiques. Il est né comme une foi post-chrétienne, en la verticalité de la parole. Il procède de l'absolu du Dieu créateur et souverain qui s'adresse par le livre à la communauté de ceux qui se soumettent à lui, comme en témoignent les pratiques rituelles. Il représente peut-être la mise au jour de ce qu'une religion naturelle devient quand elle s'embarque de révélations transcendantes. Il se pourrait aussi, selon certaines islamologues, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont théologiennes musulmanes, il se pourrait que l'islam originel ait représenté pour les femmes une libération et une avancée, même si rapidement sont apparus les fondements religieux sur lesquels s'établit aujourd'hui encore leur discrimination, alors que au commencement il n'en était pas ainsi, pour citer le Christ, puisque pendant un temps, longtemps, les femmes ont pris une part active autant dans les débats politiques que dans les luttes idéologique et même militaire. Ainsi, un très grand nombre de hadiths, c'est-à-dire de paroles de prophètes, utilisées aujourd'hui à des fins discriminatoires, auraient été inventées de toutes pièces par les hommes, disent les femmes musulmanes, surtout avant la période de leur consignation écrite, près de 2 siècles, donc après la mort de Mahomet. Ce genre de réflexion pose en tout cas la question du rapport des croyants au texte, autant que celle de l'identification du texte originel en forme autorisée, ce que nous appelons le canon des Écritures. Qui en décide? C'est une problématique inhérente à notre propre tradition croyante. Tous les mystères que nous célébrons, nous chrétiens, ont-ils un rapport strict à l'histoire? Le passage de la mer Rouge, que s'est-il au juste passé, etc. Est-ce le livre qui nous fonde ou sa tradition interprétative? Qui en décidera? Du magistère, des savants, des témoins primitifs ou de l'expérience spirituelle des croyants? En fin de compte, la parole de Dieu résonne-t-elle, oui ou non, dans le Coran? Enfin, en plus de ce rapport au livre saint qui devrait nous passionner, nous chrétiens, donc théologiens, il faut souligner l'enjeu de la rencontre des personnes et des communautés là où, comme chez nous en Belgique, elles sont en contact. Comment respecter l'autre dans sa confession religieuse? Comment instaurer, selon la recommandation de tous les papes depuis Vatican II, un dialogue des œuvres et un dialogue de l'amour avant qu'il ne devienne impossible en Europe? Merci.
Merci beaucoup.
Allons-y. Merci.